RCF.
Fidèle auditeur, auditrice de RCF et de l'émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, dans le cadre du Berry se raconte avec Agora Défense. Bonjour, en ce début d'année 2023, où nous espérons toutes et tous une année sereine, malgré une actualité dense. Notre invité aujourd'hui est un médecin, preuve là aussi de notre volonté de rester proche des réalités de notre quotidien, avec les nombreuses interrogations sur la désertification de notre territoire. Mais là, je vous rassure, ce n'est pas le propos de cette émission. Après cette longue introduction, je présente enfin notre invité. Bonjour, docteur Olivier Michel.
Bonjour.
Olivier, volontairement, je ne vous présenterai pas, je vous laisserai la joie de le faire par vous-même. Avec une première question, devient-on docteur, médecin, chef de service, par vocation ou par hasard? Tout simplement, pouvez-vous retracer votre cursus après la classe de terminale C, je suppose? Olivier, je vous laisse la parole.
Merci. Alors, je confirme, il s'agit bien d'une terminale C, comme beaucoup de médecins. Donc, bien en terminale, j'étais à Berlin, au lycée franco-allemand de Berlin, et j'avais 16 ans. Donc, la vocation, oui, bien sûr, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de hasard. Alors, à l'époque, Parcoursup n'existait pas. Donc, en classe de terminale, on s'inscrivait dans différentes filières. Et donc, j'étais inscrit, effectivement, dans différentes classes préparatoires, à Sciences Po, mais aussi en médecine. Et c'est uniquement à la rentrée que je me suis décidé à intégrer la faculté de médecine de Strasbourg, la ville française la plus proche de la frontière allemande. Et pour mémoire, en fait, je n'avais jamais habité en France avant de commencer médecine. Et donc, j'ai attaqué médecine en première année à Strasbourg en 1976.
Ah oui.
Alors, il est vrai que du côté de ma maman, j'avais une famille médecin. Mais à 17 ans, on n'a aucune idée sur le type de spécialité, sur le type de carrière, sur le lieu. La seule vision qu'on a de la médecine, c'est la vision de son médecin généraliste.
Oh, tout à fait. C'est parfaitement ça. Et vos études de médecine, vous les avez faites à Strasbourg?
Alors, j'ai fait 6 ans de médecine, c'est-à-dire premier et deuxième cycle, oui, à la faculté de médecine de Strasbourg.
Et ensuite?
Ensuite, donc, je suis venu à Bourges en 1982 comme interne.
Ah, très bien, comme interne. Et vous êtes resté sur Bourges?
Exactement. Alors, on pourra effectivement évoquer la suite.
Tout à fait. Alors, des études longues avec un choix. Est-ce que vous avez choisi l'hôpital public? Et pourquoi vous n'avez pas choisi le privé?
Alors, il y a un certain nombre d'opportunités.
Ah, voilà. Voilà.
Je suis arrivé, comme je le disais, comme interne à l'hôpital de Bourges, qui était l'Hôtel Dieu en 1982.
Vous avez connu l'Hôtel Dieu, vous?
Oui, puisque le déménagement a eu lieu en 1994.
D'accord, très bien.
Voilà. Donc, j'ai fait différents stages dans différents services. Au cours de l'internat, on fait des semestres. Alors, notamment en réanimation, donc anesthésie également, oui, en gastro-entérologie, en radiologie. Et c'est en 1983 que j'ai décidé de choisir cette spécialité qui est l'anesthésie-réanimation et qui, à l'époque où la médecine d'urgence n'existait pas, couvrait également toute la partie urgence. Alors, il y a encore une fois une tradition familiale puisque ma maman était infirmière anesthésiste à l'hôpital Baudins.
Ah !
Voilà.
Et donc, justement, docteur, être médecin anesthésiste, est-ce que c'est du stress en permanence?
Alors, il y a du stress en permanence sur un certain nombre de spécialités, mais il se trouve que mon caractère n'est pas stressé. Comme certains disent, je ne sais pas si on peut le répéter, c'est un peu de calme, de zénitude. Ça a été utilisé par certains de mes interlocuteurs me concernant. Bien, moi, ce que j'ai toujours cherché au cours de mes 40 ans de travail dans cet établissement, c'est à rendre service et à répondre à toutes les sollicitations, que ce soit au niveau de l'institution hospitalière à travers toutes les fonctions que j'ai pu occuper ou que ce soit au niveau des patients à qui j'ai toujours souhaité rendre service dans des meilleures conditions.
Alors justement, est-ce que vous pourriez un petit peu retracer votre carrière, donc jeune interne, avec la fougue de l'internat, et après, Olivier?
Oui. Donc j'ai passé ma thèse début 1985, en février 1985, pour être précis. Et donc depuis mars 1985, j'ai été praticien dans cet établissement, dans différentes spécialités, comme je l'évoque, et sur différents postes de responsabilité. Donc j'ai été effectivement au bloc opératoire, j'ai été dans le service de réanimation, j'ai été au SAMU, j'ai été au service des urgences. Et ça, c'est la spécialité à l'époque qui permettait ces opportunités multiples, pour ne pas dire diverses. Voilà. Après, au niveau institutionnel, donc, au fur et à mesure que mes fonctions se déroulaient, j'ai pu être chef de service, j'ai pu être chef de pôle, j'ai été au conseil d'administration, au conseil de surveillance, au directoire, au conseil exécutif, et puis j'ai été surtout président de la commission médicale d'établissement pendant une quinzaine d'années. Alors cette présidence de la commission médicale d'établissement permet effectivement d'évoquer la gouvernance de l'établissement qui est peu connue en fait dans le public.
Oui, en fait, c'est un peu de l'inconnu. L'hôpital public, c'est un peu l'inconnu. On connaît pas. Si, on connaît la qualité de l'hôpital public, mais on ne connaît absolument pas l'organisation.
Alors, la gouvernance aujourd'hui, même si elle a évolué depuis une vingtaine d'années, le grand pas qui a été franchi, c'est 2002, sous le ministre de la Santé de l'époque, qui était médecin Jean-François Mattei, où a été instituée ce qu'on appelait la nouvelle gouvernance, avec une montée en puissance de la communauté médicale et donc un rôle accru du président de la commission médicale d'établissement. Donc il y a différentes institutions au sein de l'hôpital public. Il y a évidemment le conseil de surveillance qui est présidé en général par un élu. Il y a la commission médicale d'établissement, il y a la direction. Il y a la direction, évidemment, mais donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le directeur qui est le représentant légal de l'établissement. Donc j'ai travaillé avec un certain nombre de directeurs. En tant que représentant légal de l'établissement, il lui revient forcément les arbitrages finaux.
D'accord.
Donc évidemment, on ne peut pas parler de pouvoir arbitraire. Je n'ai pas connu de pouvoir arbitraire dans les établissements, mais une nécessité d'arbitrage in fine, qui revient au représentant légal de l'établissement, même si un certain nombre d'éléments entrent en jeu.
Alors justement, Olivier, vous avez vu évoluer la pratique médicale. Comment expliquez-vous cette détérioration actuelle? Parce qu'il n'y a pas uniquement la question des médias, il y a quand même une réalité. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer de manière très très objective, dans la mesure où maintenant vous êtes un jeune retraité, vous pouvez dire.
Alors, je vais rester très pratique. Quand j'étais en faculté de médecine, il y avait ce qu'on appelait le numerus clausus.
Oui.
Alors, quand j'ai passé ma première année, on était 10 000 à être admis en deuxième année, ce qui est actuellement à peu près le chiffre.
Oui.
Sauf qu'entre-temps, pendant toutes ces décennies, on a abaissé le chiffre à 4 000.
Oh.
4 000. voilà, on comprend facilement que aujourd'hui les problèmes ils sont liés à ce numerus clausus. Alors une anecdote, quand on était en médecine, on nous expliquait qu'on était trop d'étudiants, qu'il y avait trop de médecins en France et que on serait au chômage. Moi, je me souviens m'être fait expliquer que j'avais pas fait le bon choix d'avoir fait médecine, puisqu'il y avait trop de médecins, qu'il fallait diminuer ce numerus clausus et que si on continuait comme ça, on serait tous au chômage. Voilà. Donc voilà. Et concernant ce numerus clausus, tout le monde a participé, tous les pouvoirs institutionnels de ce pays, que ce soit les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, que ce soit le Conseil de l'Ordre, les syndicats de médecins, enfin tout le monde, sauf peut-être les étudiants en médecine, qui évidemment souhaitaient que le numerus clausus ne soit pas abaissé, clairement, toutes les institutions de notre pays ont milité pour cette diminution du numerus clausus. Alors, est-ce que c'était pour risque de chômage ou est-ce que c'était parce que la médecine coûtait cher? On peut prêter des intentions, évidemment. Mais voilà, donc toujours est-il que non seulement il y a eu un numerus clausus, mais en plus, il faut savoir qu'au niveau de notre région Centre-Val-de-Loire, qui était à l'époque la région Centre, une des plus grandes de France, nous avions une faculté de médecine et nous avons toujours une faculté de médecine qui certes s'est agrandie, mais reste très sous-dimensionné par rapport à la taille de la région.
Oui, parce qu'en fait, la faculté de médecine, c'est la faculté de Tours.
Oui.
C'est Tours et une antenne qui va être créée, normalement, à Orléans.
Alors, le terme d'antenne n'est pas du tout approprié. Ce sera, ce sera une faculté de médecine à Orléans.
Très bien.
En tant que tel, c'est un sujet qui a engendré de nombreuses discussions.
Je sais. Et la vieille rivalité entre la métropole de Tours et la métropole d'Orléans.
Voilà. Ah, et oui. Puis, il faut savoir aussi que Orléans s'est doté d'une, par contre, ça, il s'agit bien d'une annexe, d'une faculté de médecine croate.
Oui. Parce que justement, est-ce que ce projet, se poursuit?
Absolument. Ce projet existe.
Ah oui, je savais
pas ça. Ce projet existe, se poursuit, et il est très important parce que, vu l'état de la situation dans notre région, toute amélioration, à mon avis, est bonne à prendre.
Alors, merci Olivier. Alors, un mot de conclusion. Pensez-vous que dans les années à venir, le médecin de campagne sera-t-il de retour?
Alors, je crois qu'effectivement, beaucoup de praticiens qui terminent leurs études de médecine sont attirés par cette profession de médecin de famille. La condition aujourd'hui qui s'applique à cette possibilité, c'est que tout soit bien organisé. Clairement, les jeunes médecins ne veulent pas travailler comme les médecins de campagne ou les médecins de famille de l'époque. Hein, c'est-à-dire un médecin totalement corvéable à sa patientèle. Clairement, il faut des structures bien organisées, et le rôle des élus locaux est extrêmement important, et également une possibilité de s'installer qui corresponde au choix des praticiens, qu'elles soient salariées, libérales, mais je crois qu'il faut donner un peu de souplesse aux praticiens qui souhaitent s'installer.
Ah, très bien. Alors, merci Olivier pour ces explications. Vous, jeune médecin retraité, nous nous retrouverons, Olivier, pour une prochaine émission qui, cette fois-ci, nous adressons au commandant, médecin-chef. Et là, c'est une autre histoire. Merci à vous, auditeurs, auditrices de RCF, et bonne semaine à vous. Merci.
Merci.